journal, Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, près d'un million de lycéens qui attendent de savoir à quelle sauce Parcoursup va les manger. Résultat en fin d'après-midi, leurs vœux auront-ils été affectés par la crise sanitaire? Réponse avec notre spécialiste éducation. La reprise en douceur des entrepôts d'Amazon ce matin avec des mesures d'hygiène drastiques et des incitations salariales. Nous serons en direct de l'entrepôt de Brétigny-sur-Orge. À suivre aussi la prolongation des détentions provisoire à l'heure du coronavirus est-elle arbitraire? Audience aujourd'hui devant la Cour de cassation. Les industriels réfléchissent à développer des revêtements antivirus. Et pour finir, un bout d'histoire de Radio France. Il y a 40 ans naissait France Bleu Nord.
Et au micro de Léa Salamé, dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui, je vous le rappelle, le député de l'Essonne, Cédric Villani.
France Inter.
Et c'est le jour J pour les 950 000 candidats inscrits, Sébastien, sur Parcoursup.
Ils recevront les premières réponses de la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur à 17h. Ce soir, en face de chacun de leurs vœux, trois possibilités, oui, non ou en attente. Mais cette année, à l'attente fébrile, s'ajoute une autre source de stress, le coronavirus. Les candidats ont en effet formulé leurs vœux juste avant le confinement. Cet épisode a-t-il eu un impact sur l'examen de leur dossier? C'est la question que se posent certains lycéens. Sonia Princey.
Pour des écoles d'ingénieurs, Bérénice, élève de terminale, aurait dû passer des oraux qui n'ont pas pu avoir lieu.
En entretien, on peut réussir à donner une bonne impression autrement que par nos connaissances ou nos notes et ce qu'on peut dire de nous dans un nombre de caractères limité.
Les candidats ne seront pas pénalisés, affirme le ministère de l'Enseignement supérieur. Le traitement des dossiers est informatisé et s'est fait à distance, normalement, selon Christine Gangloff-Ziegler, vice-présidente de la Conférence des présidents d'université.
La dématérialisation complète de la procédure a permis de la poursuivre alors même que l'on était en confinement. Donc ça a été, je crois, une chance à la fois pour les candidats, mais aussi pour les équipes pédagogiques qui traitent les dossiers.
Mais les professeurs d'université, accaparés par la mise en place de l'enseignement à distance pour leurs étudiants, avaient moins de temps pour les commissions d'examen des vœux, selon le SNESUP, syndicat du supérieur, où Hervé Christoffol est en charge de la communication.
Cet examen est retombé principalement sur la responsabilité des responsables de formation qui ont fait appel, plus encore que les années précédentes, aux algorithmes locaux. De fait, la sélection repose sur les notes de première et des deux premiers trimestres de terminale.
L'an dernier, 63% des candidats étaient satisfaits de leurs résultats dans Parcoursup, d'après une enquête de l'Observatoire de la vie étudiante.
Sonia Princey, moins de 10 heures donc avant la délivrance, résultat à 17h.
Les entrepôts d'Amazon en France fermés depuis plus d'un mois, Sébastien, ont rouvert ce matin à l'aube.
Des entrepôts bloqués par des décisions de justice qui demandaient aux géants du commerce en ligne de revoir ses protocoles sanitaires. Depuis, direction et syndicats se sont mis d'accord. Les 6 entrepôts français ont donc rouvert leurs portes. Bonjour Guillaume Fariol.
Bonjour.
Vous êtes en direct de l'entrepôt de Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne, un tiers des effectifs seulement et une réouverture dans des conditions de travail très encadrées, hein.
Oui, les salariés sont arrivés à partir de 5h du matin, une file continue de voitures entre sur le parking de l'entrepôt.
Bonjour, Raj, très bien, allez-y, je vous remercie, bonne journée.
Ces employés sont volontaires, aucune obligation de venir travailler, alors ceux qui sont là sont motivés.
Oui, très content de reprendre, on va pouvoir aller retourner travailler. Oui.
On est bien au travail, hein. Ça m'embêtait quand ça a fermé. Hein.
J'y vais en avance pour aller voir tout le monde.
Mais Florence est particulièrement enthousiaste.
On pensait qu'on aurait dû s'arrêter 5 jours et en fin de compte, ça a été un mois. Quoi. Donc on était déçus déjà, mais franchement, c'est très bien sécurisé, il y a tout ce qu'il faut. J'y vais tranquille. Hein.
Ces salariés volontaires sont donc convaincus par les mesures sanitaires mises en place. Effectifs réduits, masques obligatoires, prise de température. De quoi rassurer Faisel qui réceptionne les marchandises.
Au début, on avait peur par rapport aux chauffeurs routiers qui viennent d'autres pays. Maintenant, les chauffeurs, ils doivent venir obligatoirement masqués. S'ils ne sont pas masqués, ils ne rentrent pas sur le site. Leurs clés, quand ils donnent les clés, on doit les mettre dans les sachets plastiques pour que nous, on n'a pas à les prendre directement de nos mains. Ça, c'est rassurant.
Les entrepôts d'Amazon vont tourner quelques semaines au ralenti. 30% des salariés ont décidé pour l'instant de revenir selon les syndicats, en dessous des 50% espérés par la direction.
Guillaume Fariol en direct avec François Rivalan, moyen technique et ajoutons ces conditions salariales incitatives pour revenir au travail. 2 euros de plus par heure travaillée. En économie encore, ce plan de relance européen historique annoncé par Emmanuel Macron et Angela Merkel hier. 500 milliards d'euros pour réparer les dégâts économiques du coronavirus et relancer l'Europe. Voilà un secteur qui a hanté priori pourraient bénéficier de ces aides directes. Le transport routier très touché par la crise, la moitié des camions seraient encore à l'arrêt. Mais pour ceux qui roulent, les galères du confinement n'ont pas disparu. On se souvient des difficultés des routiers à trouver des aires d'autoroute propres et où ils puissent se restaurer. Eh bien, un restaurant a continué à leur ouvrir ses portes depuis le début. C'est le reportage dans la zone industrielle de Brive, La Gaillarde, signé Mathilde Dehémy.
Au beau regard, il faut désormais toquer sous la véranda. Stéphane fait du resto routier à emporter.
Oui, c'est ce qu'ils nous disent, que c'est très copieux. Mais ils mangent tout quand même.
De 45 couverts le soir, il sert désormais une quinzaine de clients. Il faut s'entraider, dit-il.
Il était agréablement surpris que nous on soit ouverts et qu'on les laisse aller au sanitaire, les accompagner. Et puis eux, ils nous accompagnent aussi pour survivre.
Dernier plat chaud, entre Toulouse et Limoges, l'adresse du relais se transmet de bouche à oreille, dit Kevin.
Ah bah, vu que j'ai récupéré le tour à mon père, c'est mon père qui m'a dit qu'il était ouvert. Mais oui, il y a plus de circulation.
Mais les routiers souffrent encore d'une économie qui reprend à peine, constate Dominique.
J'étais arrêté 3 semaines, c'est plus rien. Mais parce que je suis en temps normal, je suis de l'Espagne, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Autriche. Les usines françaises n'attendaient pas. Quand il n'y a plus de stock, on n'est plus rien emmené.
Le déconfinement n'a pas mis fin aux galères.
On n'est plus accès à quoi que ce soit, même encore aujourd'hui. Mais les restaurants qui n'ont pas du tout joué le jeu, ils ont fermé leur parking aussi. Donc pour les coupures, c'était compliqué la nuit. Donc cela, on s'en souviendra.
Dominique doute d'une reconnaissance du travail des routiers pendant la crise.
C'est le travail que les infirmières ont fait, leur travail pour les malades du Covid. Moi, c'est le français. Quand il a besoin, il applaudit. 15 jours après, il ne s'en rappelle plus.
Le routier ne craint pas de perdre son emploi. Stéphane, le restaurateur, a lui mis une partie de son personnel au chômage partiel. Brive, Laurent Maquetti, Mathilde Dehémy, France Inter.
On en vient à cette audience très attendue aujourd'hui. Prolonger une détention provisoire de façon automatique, sans débat contradictoire, est-il illégal? Question posée à la Cour de cassation. Depuis le début du confinement, des dizaines de détenus présumés innocents ont vu leur emprisonnement durer sans qu'aucune audience n'ait pu avoir lieu. Une démarche rendue possible avec l'état d'urgence sanitaire, mais certains prisonniers estiment avoir été détenus arbitrairement et ils demandent donc à la plus haute juridiction française de trancher, Corinne Audouin.
Il fallait faire vite pour empêcher des libérations d'office de détenus qui arrivaient au maximum légal en matière de détention provisoire. Le 25 mars, le gouvernement autorise donc un allongement des détentions provisoires de 2, 3 ou 6 mois, selon les cas. Mais le texte n'est pas clair. La chancellerie précise dans une circulaire que cette prolongation est de droit. Pas besoin donc de débat contradictoire. La majorité des magistrats suit cette interprétation, ce que fustige maître Thomas Bidnick. Il défend un détenu de Fort-de-France.
La loi était extrêmement claire, il fallait un débat contradictoire. C'est parce que ce débat contradictoire n'a pas eu lieu que mon client s'est trouvé en détention arbitraire. Les cours d'appel de Nancy, de Bordeaux, de Dijon disent la même chose.
En effet, ces cours d'appel ont maintenu, elles, les débats contradictoires, estimant qu'il serait illégal de s'en passer. Sur les 17 000 personnes actuellement en détention provisoire, on ignore combien ont vu leur incarcération prolongée automatiquement. Plusieurs dizaines, plusieurs centaines peut-être. Leur situation est désormais suspendue à l'analyse de la Cour de cassation.
Corinne Audouin, une deuxième nuit d'échauffourée à Argenteuil. C'est la mort d'un jeune homme à moto ce week-end à proximité d'une voiture de police qui a provoqué la colère de certains habitants. Les premiers éléments de l'enquête tendent à montrer qu'il n'y a pas eu d'impact entre la moto et la voiture des forces de l'ordre.
Il est 7h38 et si l'on fabriquait, Sébastien, des revêtements antivirus?
Des surfaces décontaminantes qui empêcheraient à tout microbe de survivre au-delà de quelques minutes. C'est tentant, mais est-ce crédible? L'élément de réponse avec Véronique Julia.
Le virus, on le sait, tiendra, c'est ce qui est le plus probable, quelques minutes à quelques heures sur une surface donnée. Dans l'hypothèse d'un usage répété, c'est le pour une poignée de porte ou une barre de métro qu'on ne peut pas nettoyer à chaque instant, l'idée d'un revêtement ou d'une matière antimicrobe n'est pas totalement fantaisiste. C'est l'avis du docteur Pierre Parnex, il est médecin hygiéniste au CHU de Bordeaux.
J'attends de voir des résultats faits sur la base d'une même norme pour dire ce que ça donne vraiment. Mais je pense que ça peut être vraiment une aide supplémentaire dans le futur. Ça va pas résoudre toutes les transmissions, mais ça va quand même contrôler l'environnement.
Au-delà d'une norme qui s'imposerait à tous et qui validerait les concepts, il y a le choix du dispositif. Il faut que le revêtement ait une action stable et pérenne, éviter donc que le désinfectant parte après quelques frottements ou lavages, et préférer une matière imprégnée dès sa fabrication, imprégnée notamment de poudre d'argent ou de cuivre, aux propriétés, c'est connu, bactéricides.
C'est efficace, ça diminue le nombre de micro-organismes sur une surface, on n'a pas démontré que ça diminuait après les infections chez les personnes, etc. Ça, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Mais le cuivre est connu pour avoir des propriétés antimicrobiennes, effectivement.
Évidemment, ces traitements au cuivre ont un coût. Mais surtout, quand bien même on mettrait du cuivre partout, le premier vecteur de bactéries et de virus, c'est nos mains qui touchent nos propres visages et nos microbes. Se les laver souvent reste la meilleure barrière aux infections, la moins coûteuse aussi.
Véronique Julia, est-ce qu'un climat plus chaud et humide permettrait d'endiguer la pandémie? Quelques études le laissaient entendre ces derniers temps, mais des chercheurs américains ont publié une première enquête dans Science. Conclusion, pas de lien biologique entre le climat et le virus à ce stade.
7h40, on termine avec la fille aînée de toutes les radios locales de Radio France.
Fréquence Nord, aujourd'hui France Bleu Nord fête ses 40 ans et notre consoeur est née en 1980, à l'époque où les radios pirates étaient encore illégales et Fréquence Nord était alors la seule autorisée officiellement à diffuser. Claire Mesureur de France Bleu Nord.
Du nouveau à la radio en France, depuis une semaine, fonctionne à Lille Fréquence Nord.
Et l'événement est tel que Fréquence Nord a même les honneurs du journal de Jean-Claude Bourret sur TF1. Dans la région, on connaissait Radio Campus, plus ou moins toléré par les pouvoirs publics, ou bien encore Radio Quinquin, lancée par la CGT, et plutôt harcelée quant à elle par les autorités. Bref, c'est l'anarchie sur la bande FM, et Jacqueline Baudrier, alors présidente de Radio France, voit en Fréquence Nord une façon d'organiser les ondes.
Les fréquences ne sont pas illimitées. Le contraire d'une expression démocratique serait de les laisser à tout venant et qu'une certaine tendance de l'opinion s'en empare. À ce moment-là, les autres ne pourraient plus s'exprimer.
Fréquence Nord devient alors la radio des ch'tis. Ici, on parle patois, on s'intéresse à la vie locale et tout le monde a son mot à dire. Pierre Mauroy, alors tout puissant patron de la région, en appelle à la responsabilité du gouvernement.
Il est absolument indispensable que le gouvernement fasse des propositions, qu'il y ait une loi votée par l'Assemblée nationale qui puisse rétablir des règles de droit.
Et Bruno Mazur avait sans doute senti le vent en concluant son reportage sur Fréquence Nord.
Cette formidable bataille des ondes va faire beaucoup de bruit en France. Elle pourrait même, dit-on, réveiller le petit Quinquin.
Voilà, bon anniversaire à nos confrères de France Bleu Nord.
Merci Sébastien Legénie.